Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Christophe Paco.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce lundi 26 juillet, la quatrième médaille à l'instant pour le clan tricolore aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'argent en moins de 57 kilos pour Sarah Léonie Cizik. Et on espère du bronze, peut-être dans un instant, pour Manon Brunet. En escrime, au sabre féminin, nous serons dans quelques instants, duplex en direct de Tokyo. Unité nationale retrouvée pour le ministre de la Santé, Olivier Véran. Liberté conditionnelle pour les opposants au pass sanitaire, à l'image de Jean-Luc Mélenchon. Le texte a été adopté cette nuit par le Parlement, avec quelques modifications comme des sanctions moins lourdes pour les restaurateurs qui ne vérifiaient pas les QR codes. L'isolement en cas de test positif, passe maintenu pour les mineurs, pas nécessaire non plus pour accéder aux centres commerciaux, mais attention, pas pour se rendre dans des magasins non alimentaires. Aucun licenciement non plus pour les employés non vaccinés, plutôt une suspension de salaire. Dossier complet dans un instant de RTL Midi et décryptage avec Maître Étienne Pujol, avocat d'entreprise qui sera notre invité. Et justement, la question du jour sur RTL.fr, suspendre plutôt que licencier les salariés non vaccinés, est-ce suffisant? On attend votre avis et vos appels au 3210. Pour l'instant, vous dites oui à 51% et non à 37%. Et puis en ce lundi de juillet, nous venons de franchir à l'instant la barre des 40 millions de primo-vaccinés, alors que la pression sur les services de soins reste importante, mais contenue tout de même, malgré depuis 15 jours une nouvelle flambée de contamination. Saint-Étienne de Rouvray n'oublie pas l'attaque terroriste dont a été victime le père Hamel. Égorgé, on s'en souvient, par deux assaillants il y a 5 ans, jour pour jour. Nous nous rendrons dans cette petite ville, dans cette petite commune, tout près d'Orléans, dans 10 minutes. Le trafic des TGV Atlantique a repris progressivement ce matin après un éboulement mortel hier soir tout près de la gare de Massy en région parisienne. Nous ferons le point sur les circonstances de cet accident. La météo, bonjour Claire Delorme.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Je vous le dis tout de suite, on compte sur vous. On compte sur vous pour les bonnes nouvelles du ciel.
Écoutez, je vais y aller parce que côté bonne nouvelle, on va devoir un petit peu patienter. En effet, on a cette goutte froide qui circule encore sur la Belgique et donc elle va porter dans l'après-midi pas mal d'averses orageuses sur toutes les régions du nord de la Seine avec donc des averses bien fréquentes. Attention, l'instabilité sera également de mise pour toute la chaîne des Pyrénées et un petit peu aussi vers les frontières de l'Est, arrière-pays niçois. Partout ailleurs, un ciel variable avec une alternance de passages nuageux, mais aussi de très belles éclaircies qui seront sympathiques, hein, particulièrement en Occitanie. Bien. Et pour les températures, 1 à 2 degrés en dessous des normales. Ça oscillera entre 21 et 26 degrés sur la moitié nord et au niveau du sud-ouest et jusqu'à 32 degrés en Méditerranée.
Vous restez avec nous, on en parlera juste avant 13h. On regardera un peu ce qui va se passer dans la semaine aussi, ça nous intéresse.
Très bien, je suis là.
La météo, votre ciel, le pass sanitaire, tous les sujets d'actualité, c'est pour vous. Bien sûr, venez dialoguer avec nous. 3210 3210, on vous attend au standard d'RTL, les midi 33.
RTL midi.
La quatrième médaille, ça y est, pour la France. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour Christophe.
Au jeu de Tokyo, c'est bien, c'est encore du judo. Et c'est pour la jeune judokate Sarah Léonie Cizik.
Oui, malheureusement, en finale, elle a été disqualifiée. Une action dangereuse pour elle-même. Elle a pris appui sur sa tête sur une action qu'elle portait à la Kosovare Djakova. Elle n'a pas été battue, elle s'est en fait battue elle-même alors qu'elle dominait cette finale. C'est un point de règlement qui est censé protéger les athlètes. C'est la première fois qu'une finale olympique se termine sur ce point de règlement. Sarah Léonie doit donc se contenter de la médaille d'argent alors qu'elle était légèrement devant.
Si je calcule bien, ça nous fait combien de médailles en judo déjà ?
Une par jour, c'est le tarif.
C'est magnifique.
Trois.
D'accord, trois médailles déjà. On sera avec Brigitte Dédier, que vous connaissez bien, Jean-Michel Rascol, spécialiste judo, qui sera avec nous tout à l'heure pour parler de cette force en ce moment, de ce judo, de ces talents incroyables sur les tatamis. Dans les auditeurs, on a la parole à 13h30. Mais Nicolas Burnand, qui est avec nous en duplex de Tokyo, vous allez peut-être revenir sur le portrait de cette troisième médaillée dans la famille du judo bleu-blanc-rouge.
Oui, native de la région parisienne, Sarah Léonie Cizik a 4 ans lorsqu'elle commence le judo à La Ferté-Milon, une petite commune de l'Aisne. C'est grâce à sa mère, elle voulait que sa fille pratique un sport de combat. Puis ce sera le Pôle France à Strasbourg et l'INSEP en 2017. Sur les tatamis, la jeune femme progresse vite. Ses camarades la surnomment « Ciseau la découpe » en référence à l'efficacité de ses hippons. La Française enchaîne les performances dès l'année suivante. Championne d'Europe junior, 5e au championnat du monde en individuel en 2019. À 23 ans, ce palmarès déjà impressionnant lui ouvre les portes de ses jeux. Programmée pour briller à Paris en 2024, elle décroche donc déjà un premier titre olympique ici à Tokyo. À côté du sport, Sarah Léonie est titulaire d'un bac scientifique. Elle travaille comme agent commercial à la SNCF, issue d'une famille de cheminots. Elle aime les animaux, possède d'ailleurs un boule terrier et compte bien un jour intégrer la brigade cynophile de l'entreprise ferroviaire. Mais ça sera après sa carrière internationale qui commence à peine.
Médaille d'argent donc pour Sarah Léonie Cizik. Ciseaux, la découpe, j'adore. Jean-Michel Rascol, vous revenez tout à l'heure à 12h50. On sera en duplex également avec Isabelle Langer, autre envoyée spéciale pour RTL. Là, on parlera d'escrime avec l'espoir, pourquoi pas, d'une médaille de bronze pour la petite Manon Brunet.
À tout de suite.
Ce serait bien. À tout de suite, merci Jean-Michel. C'est par un tweet ce matin que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que le cap des 40 millions de primo-vaccinés a été atteint plus tôt que prévu. L'obligation du pass sanitaire, en tout cas, vous a visiblement poussé à vous rendre plus nombreux dans les centres dédiés. Et Peggy Liodeno s'est rendue ce matin au centre, justement, de vaccination de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Et oui, c'est un véritable défilé hein, devant ce centre de vaccination. Pansement sur l'épaule, Thiéphaine ressort après sa première injection. Ayant déjà eu le Covid, il lui aura suffi finalement d'une seule dose et pourtant, c'est contraint et forcé qu'il s'est présenté ce matin.
Ça va devenir obligatoire pour les restaurants, et c'est un peu la prison si on ne l'a pas. Disons qu'il le fallait pour vivre, quoi. On n'a plus de liberté, quoi.
Juste avant lui, Julien, il est agent de sécurité et pour garder son travail, il n'a pas vraiment eu le choix.
J'aime ce que je fais, donc je préfère me faire vacciner plutôt que de me faire mettre de côté et pas pouvoir bosser quoi.
Alors parmi les vaccinés de la matinée, beaucoup étaient là pour leur deuxième dose. Ils avaient donc entamé la vaccination bien avant l'allocution d'Emmanuel Macron. Pour Abdel, la vaccination est même un devoir.
Il est avéré que ce vaccin, il marche bien, il permet vraiment d'éviter la propagation. Donc pour moi, on se doit de le faire et je comprends qu'on incite, surtout pour le personnel soignant.
Dans ce centre, 2800 vaccinations sont réalisées chaque jour. Le délai pour obtenir un rendez-vous est passé de 8 à 24 jours depuis les annonces du président.
Peggy Liodeno à Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon pour RTL. Et pendant ce temps-là, vous le savez, un accord a été trouvé hier soir au Parlement quant à l'adoption du pass sanitaire. Aucun licenciement pour les employés non vaccinés, des sanctions moins lourdes pour les restaurateurs. Un pass obligatoire tout de même pour les terrasses. Maintenu ce pass également pour les mineurs de 12 à 17 ans, ce sera à partir du 30 septembre. Et ce ne sera pas toujours nécessaire évidemment d'avoir ce pass sanitaire pour accéder aux centres commerciaux. Mais attention, uniquement pour les achats de première nécessité. On va voir tout cela en détail avec vous aujourd'hui, Anaïs Bouissou, bonjour.
Bonjour.
On y va pour le détail.
Oui, la prochaine étape du pass sanitaire, ce sera son entrée en vigueur début août, dans les cafés, restaurants, dans les foires et salons professionnels et dans les transports pour les voyageurs qui prennent l'avion, le train, les bus sur des longues distances. Notez bien l'exception des centres commerciaux. Pass sanitaire ou pas, ça dépendra du préfet, ça sera différent d'un endroit à l'autre. Et ça viendra en plus des lieux de culture, ça veut dire dans tous ces lieux que si les responsables ne contrôlent pas, ils pourront être sanctionnés. 1500 euros d'amende minimum pour les responsables dans les transports. Dans les autres lieux, comme les restaurants, ce sera une mise en demeure, puis en cas de récidive, une fermeture administrative jusqu'à une semaine. Et pour ceux qui insistent, là, ça va faire très mal, jusqu'à un an de prison et 9000 euros d'amende.
Là, c'est beaucoup, ça fait très mal quand même. On parlait des visiteurs et des responsables. Alors pour les salariés maintenant, Anaïs, qu'est-ce qui change ?
Quand vous êtes salarié d'un lieu ouvert au public, vous devrez avoir aussi un pass sanitaire, vaccination ou preuve de test. Et ça, c'est à partir du 30 août. Si jamais vous refusez, quand vous êtes en CDD, votre contrat peut être rompu. Quand vous êtes en CDI, vous serez suspendu, à moins de poser vos jours de congé ou d'être redéployé sur un poste loin du public. Vous ne pourrez pas, en théorie, être licencié, mais vous ne toucherez plus aucun salaire le temps de régulariser votre situation.
Oui, et pour le personnel soignant, on en parle beaucoup, on a beaucoup parlé évidemment sur RTL.
Oui, si vous êtes soignant ou en EHPAD ou au contact d'un public fragile, pour vous, ce n'est pas le pass sanitaire, mais là, vaccination qui va être obligatoire. La date importante, c'est le 15 septembre. Mi-septembre, vous devrez impérativement avoir votre première dose de vaccin. Sinon, là aussi, vous pourrez être suspendu le temps de vous mettre en conformité. Toutes ces mesures s'appliquent le temps de l'urgence sanitaire, c'est-à-dire pour l'instant jusqu'au 15 novembre.
Jusqu'au 15 novembre. Vous restez avec nous, Anaïs Buisson. On va recevoir notre invité dans un instant. Notez quand même, auparavant, que le Conseil constitutionnel doit encore se prononcer sur la validité de cette loi. Il le fera.
De ce projet de loi.
Ce projet de loi, en tout cas, il le fera le 5 août prochain. Le pass sanitaire ne rentrera donc pas en application, on est bien clair, avant cette date. Avec nous, Maître Étienne Pujol, avocat d'entreprise en droit social, associé au cabinet Berilo, qui est avec nous. Bonjour à vous, Maître.
Bonjour.
On a entendu, suspendre plutôt que licencier les salariés non vaccinés, c'est une bonne décision de la part du Parlement ?
C'est une décision qui est en tout cas problématique pour les DRH que je défends et que j'assiste au quotidien, parce que autant il y avait une suspension assortie au bout d'un certain délai d'une rupture du contrat de travail qui permettait aux salariés de retrouver un autre poste le cas échéant dans un autre milieu, autant là la situation ne s'arrêtera pas, c'est-à-dire que les salariés se verront du jour au lendemain privés de travail évidemment, mais également de rémunération.
C'est ça, privé de salaire, clair, sans aucun doute, à chaque fois. N'importe quel poste, on parle des soignants bien sûr et autres, c'est peut-être un cas particulier.
En fait, c'est tous les postes dont Anaïs vient de parler, c'est-à-dire tous les postes qui sont exposés au public, c'est-à-dire où il y a des interactions avec les tiers.
Par exemple, un barman, s'il veut revenir, je sais pas moi, juste pour faire du ménage ou pour ranger des bouteilles, il ne pourra pas. D'accord.
En fait, il pourrait le cas échéant, puisque ce que prévoit le projet de loi, c'est que au bout de 3 jours, il aura un entretien avec la personne idoine qui représente son employeur, afin de trouver un reclassement. Alors, qu'est-ce qu'un reclassement ? C'est un reclassement sur un poste dans lequel il ne sera plus en contact avec les tiers. Et donc, l'employeur pourra lui proposer ces postes-là le temps qu'il régularise sa situation. On voit bien que derrière, il y a une incitation à se vacciner plus vite pour tout le monde, c'est ce qui a été dit depuis 15 jours. Mais cela sous-entend par ailleurs que, en fait, il est possible de contaminer le cas échéant des clients, mais en revanche que la contamination des collègues de travail ne pose pas de problème, ce qui pose évidemment un certain problème de philosophie.
Je crois qu'on en parlait tout à l'heure avec nos auditeurs, j'imagine, sur le 3210 3210 Anaïs Bouissou.
Oui, la CPME, les représentants du patronat, expliquent que cette mesure de suspension crée une insécurité juridique. Est-ce que c'est ce que vous pensez également, vous ?
Oui, évidemment, ça crée des tensions, puisque lors de cet entretien, le DRH ou la personne qui va recevoir le salarié va lui poser des questions sur les raisons pour lesquelles il n'arrive pas à produire de certificat vaccinal, de passe sanitaire, et puis lui demander s'il veut des postes éventuellement disponibles qui ne seront pas en direct communication avec les clients. Donc évidemment, ça pose des questions et ça crée une insécurité, puisque tant que le salarié ne sera pas en mesure de présenter un passeport, sa situation sera d'absence de rémunération. Ce qui est un peu contradictoire, puisque on voit bien que normalement, quand un salarié ne veut pas venir travailler pour des raisons qui tiennent à sa santé, il est indemnisé par l'assurance maladie. Et là, ça ne sera pas le cas.
Ça ne sera pas le cas. Pour être très clair et concrètement, être assez concis tout de même pour conclure, maître Étienne Pujol, est-ce qu'on peut dire que ça s'apparente presque à un congé sans solde aujourd'hui quand on fait ce genre de choses ? Parce que ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un de l'entreprise qui nous remplace et qu'il va falloir revenir avec de bonnes raisons pour retrouver un poste à la hauteur de nos ambitions.
Alors c'est le terme qu'a utilisé Olivier Véran hier soir, c'est un terme qui est impropre puisque le congé sans solde est à la demande du salarié. Là, le salarié, il a rien demandé. Il se retrouve sans rémunération par effet de la loi et pour une durée indéterminée, et donc ce n'est pas vraiment un congé sans solde, c'est un congé lié à des convictions ou à une impossibilité de se vacciner ou de présenter un passeport sanitaire.
Merci d'avoir au mieux vulgarisé ces dernières données, évidemment, quant à l'adoption de cette loi très prochainement, le 5 août bien sûr, et ce nouveau passe sanitaire. Merci à vous deux, Anaïs Bouissou, service économique et social d'RTL, et vous, bien sûr, maître Étienne Pujol, avocat d'entreprise en droit social, associé au cabinet Berillo. Dans un instant, on va revenir sur cet arrêt, évidemment, hier du trafic sur la ligne Atlantique, le TGV Atlantique hier, qui s'est arrêté sur Massy après un effondrement, après un glissement de terrain qui a fait un mort. On en reparle dans un instant avec Arnaud Touche.
RTL Midi, avec Christophe Paco.
Pas moins de 70 trains bloqués après un affaissement des voies sur un chantier ferroviaire tout près de la gare de Massy au sud de Paris hier après-midi. Un ingénieur du réseau SNCF a trouvé la mort lors de cet éboulement. Et Valentin Boisset était sur place tôt ce matin encore à la gare Montparnasse où arrivent et partent, vous le savez, les TGV en provenance de l'ouest du pays. Quelques légers retards encore après un arrêt du trafic compliqué à gérer pour beaucoup, comme ces deux amis qui ont préféré différer leur départ.
Bah hier soir, franchement, quand j'ai vu le problème, quand j'ai su le problème, je me suis dit c'était mort. J'ai espéré jusqu'au bout, mais non, c'est supprimé à la fin.
Bah, on prend son mal en patience. Après, moi, je suis pour tout ce qui est la correspondance, pour les rendez-vous que j'ai là-bas, etc. Mais c'est sûr que c'est toujours pas jamais agréable d'avoir du retard. Enfin, 6 heures de retard, c'est énorme.
6 heures de retard, c'est énorme, effectivement, mais les circonstances sont telles qu'il fallait arrêter le trafic, bien évidemment. On va justement revenir avec vous sur les circonstances de l'accident. Arnaud Touche, bonjour.
Bonjour.
Comment ça s'est passé ?
Eh ben, tout s'est déroulé vers 17h hier. Un cadre de SNCF Réseau se rend sur un chantier à hauteur de Massy. Des travaux de remplacement de deux ponts ferroviaires sont en cours. Sur ce chantier, il y a un forage d'une trentaine de mètres de profondeur, selon les pompiers. L'homme de 55 ans s'approche du garde-corps, mais le sol se dérobe sous ses pieds et il est enseveli, selon la procureure de la République. Néanmoins, vers 21h hier, la voie à grande vitesse a été inspectée et le trafic a pu reprendre.
Arnaud Touche, dans ce cas de figure, quand on est arrêté comme ça par un accident, cet éboulement, cet affaissement de terrain, billet de train, restaurant, hôtel, taxi, c'est remboursé ?
Alors non, car la SNCF a proposé des bons taxis et des nuits d'hôtel pour les passagers arrivés notamment à Montparnasse ou qui n'ont pas pu rejoindre Paris. Si vous avez pris le taxi par vous-même ou si vous avez réservé une nuit d'hôtel par vos propres moyens, ce ne sera pas remboursé par la SNCF. Parfois, certaines assurances de carte bancaire proposent un dédommagement. Seule certitude, les billets des passagers des 70 TGV touchés seront intégralement remboursés sur demande.
Merci pour toutes ces précisions, Arnaud Touche. Il y a 5 ans, jour pour jour, le père Jacques Hamel était assassiné dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray en pleine messe par deux terroristes. Les jeunes hommes avaient poignardé et égorgé le prêtre et blessé ensuite gravement un paroissien avant d'être abattu. Ce matin, une messe commémorative a eu lieu dans sa paroisse en présence notamment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Esteban Pinel, les souvenirs de ce 26 juillet 2016 et du père Hamel sont toujours intacts.
Ce jour-là, le mal a semblé l'emporter. Les mots de l'archevêque de Rouen pendant la messe. À la sortie, un paroissien nous confie sa sidération tenace.
Ça a été un choc pour la nation et pour le monde. Je n'ai pas pu m'exprimer, même à mon retour dans ma paroisse. J'étais dans cet état-là chaque fois que je pense au père qui était mon curé.
Le père Jacques Hamel, un homme simple, un citoyen engagé. Le 26 juillet 2016, il est égorgé sous les yeux de croyants, parmi eux sœur Danielle.
Moi, je ne peux jamais me remettre à la place où j'étais le jour du drame. Ça, c'est clair. Parce que j'ai toujours cette vision de ce père Jacques qui est tombé et son moillard.
Une scène traumatisante malgré l'appel au pardon, encore renouvelé ce matin et partagé par la rescapée.
Oui, j'ai pardonné. Tous les jours, je récite le Notre Père. Donc ce pardon, il est dans le Notre Père. Et si je le récite et que je ne le vis pas, je ne suis pas en vérité.
La cérémonie aura aussi permis de dire que l'enquête religieuse sur le père Hamel avance, en vue peut-être d'être reconnu comme martyr.
12h48, RTL Midi, Te Akaiki Tahawa, le grand chef qui marche et qui va loin. Emmanuel Macron a été ainsi rebaptisé aux Marquises à l'occasion du premier voyage d'ailleurs d'un président français dans cette petite île du bout du monde si chère à Paul Gauguin ou encore Jacques Brel. Emmanuel Macron souhaite voir classée à l'UNESCO cette perle française. Jacques Seret, vous êtes notre envoyé spécial et les Marquisiens ont offert cette nuit un spectacle rare.
Oui, accueil grandiose pour le président sur cette petite île perdue au milieu de l'océan Pacifique. En contrebas des montagnes, 2000 habitants rassemblés dans les tribunes du stade Ivaoa et sur la pelouse, près de 500 danseurs vêtus de haoutis, de simples feuilles vertes. Tous entonnent la Marseillaise, dos au chef de l'État, mais face à l'océan. Un petit bout de terre sur lequel jamais un président français n'avait posé le pied. La maire de Lille, Joëlle Frébeau, ouvre la voie à Emmanuel Macron.
Comme l'exige notre tradition du Haïnois, il convient que l'on vous donne un nom marquisien. Nous vous nommons Te Akaiki Tahawa, qui signifie le grand chef qui marche et qui ira loin.
Le marquisien Emmanuel Macron, visiblement ravi de son nouveau nom.
Nukuhiva Kaoanui. Vous avez dit que j'étais ce chef qui irait loin et qui regarde devant. Personne ne va loin s'il n'a les pieds quelque part et s'il sait d'où il vient.
Le président qui s'est engagé à soutenir la candidature des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Vive les Marquises ! Vive la Polynésie française ! Vive la République ! Et vive la France !
Jacques Seret, envoyé spécial d'RTL aux Marquises pour cette carte postale.
RTL à Tokyo.
Allez, après la très très belle médaille quand même de... Oh, on est déçus parce qu'on voulait l'or, mais médaille d'argent tout de même pour Sarah Léonie Sizik en moins de 57 kilos en judo. Place à l'escrime et l'espoir, pourquoi pas d'une nouvelle médaille. Médaille de bronze cette fois pour Manon Brunet, Isabelle Langer.
Oui, Manon Brunet en piste maintenant pour aller chercher cette breloque. La sabreuse française va défier la hongroise Anna Marton. Elle a eu une heure pour digérer sa défaite en demi-finale contre la russe Podzniakova qui concourt sous bannière neutre. La lyonnaise qui a débuté l'escrime à 8 ans parce que la tenue lui plaisait, mon cher Paco.
Bah oui, je comprends.
Eh bien, connaît déjà le goût d'une médaille en chocolat parce qu'au Jeu de Rio en 2016, l'étudiante en management avait en effet échoué au pied du podium. Nul doute donc qu'à 25 ans, elle ait envie de revivre pareil des illusions.
Ah oui, femme en chocolat, aujourd'hui femme chocolat, comme disait Olivia Ruiz, la chanteuse, bien sûr.
Ouais, mais vous... femme bronzée, ce serait pas mal.
Ah, ce serait pas mal, cette petite médaille bronze. Vous restez avec nous, bien sûr. Isabelle Langean du Plex de Tokyo pour cette médaille qu'on attend tous. Jean-Michel, le retour, Jean-Michel Rascol. On commence par cette... dans cette journée par quoi ? Par les déceptions françaises
ou... Allez, par les déceptions. Allez. Vincent Louise, double champion du monde de triathlon, n'a pris que la 13e place ce matin. Il était pourtant en tête après l'épreuve de natation. Victoire dans ce triathlon olympique du Norvégien Blufenfeldt. Natation, Marie Vatel, 6e de la finale du 100 mètres papillon. L'équipe de France de handball qui domine le Brésil 34 à 29. Martin Thomas qui avait dominé les demi-finales de l'épreuve de canoë monoplace termine 5e de la finale. Enzo Lefort stoppé en quart de finale au fleuret. L'équipe de France de volley se relance en battant la Tunisie 3-7 à 0. Le vététiste Victor Kotetsky, 5e d'une course remportée par le Britannique Thomas Pidcock. Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Poupou, a fait un soleil en début de course qui l'a contraint à l'abandon.
Jean-Michel Rascol, que vous retrouverez avec grand plaisir comme tous les soirs sur RTL avec Marie Portolano, 18h30, notez bien le rendez-vous. On refait les jeux, une pause, courte pause, et dans un instant ces découvertes médicales qui ont changé nos vies.
RTL Claire. RTL Midi avec Christophe Paco.
Et ces découvertes médicales qui ont changé nos vies. Chaque lundi cet été, on s'arrête avec le service santé, les archives d'RTL, sur les grandes découvertes médicales qui ont vraiment révolutionné.
RTL. Ces découvertes qui ont changé nos vies.
Gros plan aujourd'hui sur les greffes d'organes, reins, cœur, poumons, peau. En France, 57 000 personnes vivent avec un greffon fonctionnel. Chaque année, 5 000 greffes en moyenne sont réalisées. Odile Pouget.
L'information de dernière minute, et celle-là, c'est surprenante. Des chirurgiens du Cap, en Afrique du Sud, donc, auraient réussi à transplanter pour la première fois un cœur humain.
Nous sommes le 3 décembre 1967. La planète entière, stupéfaite, apprend que le cœur d'une jeune femme de 25 ans, morte dans un accident de la route, bat depuis quelques heures dans la poitrine d'un homme de 55 ans, Louis Vachkonski.
Quand, à ce moment-là, le cœur est effectivement reparti, nous avons tous éprouvé une grande joie et aussi un certain soulagement.
C'est un chirurgien au physique de Playboy, Christian Barnard, entouré d'une équipe de 30 personnes, qui a réalisé cette première transplantation cardiaque au monde.
C'était un pas sur la Lune.
Vivre avec le cœur d'un autre. Sur RTL, le professeur Alain Deloche, cardiologue, se souvient.
On ne peut pas imaginer la conséquence même symbolique. Il y avait un côté parjure quelque part. Et surtout, ça a posé le problème de la définition de la mort.
Pour le patient sud-africain, le miracle durera 18 jours. Mais la voie est ouverte et au tout début des années 80, un médicament vient au secours de tous les transplantés.
Quand on greffe un organe étranger, on le rejette du fait de son système immunitaire.
Le docteur Régis Bronchard, directeur adjoint du prélèvement et de la greffe à l'agence de biomédecine.
Alors là, on a trouvé des médicaments pour faire diminuer l'immunité chez le receveur. La découverte d'une molécule qui s'appelle la cyclosporine, de ses propriétés, a révolutionné complètement le pronostic de la greffe. Et on est passé de quelques centaines de greffes par an en France à plus de 3000 en quelques années.
Le pronostic de survie des malades s'améliore considérablement et les premières mondiales s'enchaînent comme cette double greffe de poumon en novembre 89 à l'hôpital Foch de Suresnes. L'émotion d'Alain Pinson, un peintre en bâtiment de 42 ans qui se savait condamné.
J'étais sous oxygène 16 heures sur 24. Je me voyais partir tous les jours, je ne pouvais plus rien faire. C'était vraiment un calvaire. Maintenant, avec l'intervention, c'est magnifique. Je suis un nouveau-né, je reviens à la vie.
Progrès de la chirurgie, des techniques de réanimation, de la conservation des greffons. On assiste dans les années 2000 à des interventions de plus en plus spectaculaires. En février 2006, au CHU d'Amiens, première apparition devant micros et caméras d'Isabelle Dinoir, dont les joues, la bouche et le menton avaient été déchiquetés par son chien.
Je suis le jour de l'opération, j'ai un visage comme tout le monde.
Greffe des deux mains pour Denis Chassé. Châtelier, 33 ans, amputé après l'explosion d'une fusée artisanale. Jean-Michel Dubernard, qui l'a opéré à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, témoigne sur RTL.
Il bouge l'extrémité de tous les doigts des deux mains et la sensibilité commence à apparaître sur les 3 ou 4 premiers centimètres du greffon. Les ongles et les poils repoussent.
Ce type de greffe reste malgré tout très rare. L'obstacle pour tous les patients demeure le manque de greffons. Aujourd'hui, plus de 24 000 patients sont sur liste d'attente.
Et pourtant, on a augmenté le nombre de prélèvements et donc le nombre de donneurs.
Le docteur Régis Bronchard de l'Agence de biomédecine.
On ne se limite plus à des donneurs jeunes dans des conditions idéales comme il y a 20 ans. Maintenant, il y a plus de 40% des donneurs qui ont plus de 65 ans et on prélève même des donneurs de plus de 90 ans.
Le taux de refus au prélèvement d'organes, lui, ne bouge pas. Il tourne autour de 30%. Depuis 20 ans.
Voici donc une première mondiale 100% française en plus. Une révolution. Un cœur artificiel a été implanté sur un patient à Paris.
Ce premier patient, Claude Dany, en insuffisance cardiaque terminale, survivra 75 jours avec ce cœur Carmat, une bioprothèse intelligente bardée d'électronique, 8 ans et une kyrielle d'essai plus tard. Le cœur artificiel est prêt à être commercialisé. 250 patients en France, 2000 en Europe pourraient être concernés.
Chronique du jour, chronique santé signée Odile Pouget. 12h58. Et l'Aude sous surveillance après qu'un incendie a parcouru plus de 850 hectares de végétation dans le secteur d'Alaric. Feu contenu, mais météo défavorable à venir. Les pompiers restent en alerte. Et la Sardaigne, tout près de chez nous, en proie aux flammes, où plus d'un millier d'habitants ont été évacués ces dernières heures. Un impressionnant ballet de Canadair, avion porteur d'eau, arrose une partie de la région en ce moment. Et l'Italie a demandé tout simplement ce matin de l'aide aux pays européens. On en vient justement à la météo avec vous, Claire Delorme. On y revient. Cette sécheresse est presque anormal quand on voit les orages qui ont eu lieu il y a ces quelques heures, ces dernières heures en tout cas.
Alors en fait, concernant l'Aude, c'est un département qui fait partie de la Méditerranée, donc la Méditerranée a un climat bien spécifique. Il fait d'habitude donc très sec car on a très peu de pluie. Également, les températures sont élevées. En plus, ce sont des régions qui sont venteuses par le Mistral ou encore par la Tramontane. Oui. Donc pour vous faire une idée, par exemple, dans l'Aude, il y a un déficit de pluie depuis le début d'année de 50%, donc c'est quand même suffisamment marqué pour que toutes les conditions soient idéales pour des départs d'incendie. Et donc purement côté ciel, eh bien, en effet, ça sera de très belles éclaircies pour la Méditerranée, mais donc au prix d'un risque élevé d'incendie, oui. Alors que partout ailleurs, eh bien, c'est l'instabilité avec de la pluie, des orages, particulièrement pour les départements au nord de la Seine pour cet après-midi. L'instabilité sera également de mise sur toute la chaîne des Pyrénées, puis un petit peu aussi vers les frontières de l'Est, essentiellement vers l'arrière-pays niçois, ou encore en direction du Jura, partout ailleurs. C'est un ciel variable, une alternance de passages nuageux, d'éclaircies, mais aussi de quelques averses, hein, quelques ondées possibles, hein, donc à craindre. Et pour les températures, on est 1 à 2 degrés en dessous des normales. Il fera entre 21 et 26 degrés pour la moitié nord et le sud-ouest et jusqu'à 30 degrés pour la Méditerranée.
Ah, la Méditerranée, son ciel laiteux par moment. Et demain, très rapidement en un mot, très je peux mettre le maillot ou pas?
Non, pas pour la moitié nord, fin de semaine non plus, je le crains.
Je sais pas ce qu'on va faire avec Greg Caradoni, on avait tout prévu pourtant pour partir en week-end. Allez, 12h59. Je regarde bien ma montre, il est tout pile 13h.
Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco sur RTL.
Juste avant de vous retrouver, justement, auditeurs ont la parole, et juste avant le rappel des titres, question du jour, je vous la rappelle sur RTL.fr. Suspendre plutôt que licencier les salariés non vaccinés, est-ce suffisant? Qu'en pensez-vous? Saïd est avec nous. Bonjour Saïd.
Bonjour Jean-Marie. Bonjour monsieur.
Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de suspendre plutôt que, voilà, de tout simplement licencier?
Moi, licencier, en fait, un salarié que je viens d'embaucher, en fait, je trouve que c'est inadmissible. Donc, c'est une loi, en fait, qui est complètement, en fait, en pleine crise, on commence à licencier des personnels, en fait. Donc, du coup, comment on va relancer l'économie?
Relancer l'économie? C'est un très bon sujet, on va reparler. Également, le maire de la Baule sera avec nous. Lucas a décidé de remettre le masque dans ce contexte sanitaire, ô combien compliqué, vous l'aurez tous compris. Les principaux titres de l'actualité et le cap des 40 millions de primo-vaccinés franchis, c'est ce qu'a annoncé ce matin dans un tweet le président Emmanuel Macron, qui appelle à continuer, bien sûr, le nombre de vaccinations possibles pour tenir au plus rapidement, en tout cas pour obtenir, bien sûr, la double dose le plus rapidement possible. Projet de loi sanitaire adopté. Le Conseil constitutionnel tranchera le 5 août prochain. Il va falloir donc faire attention à vos nouvelles mesures. Par exemple, les supermarchés, vous pourrez y aller, mais que pour des produits de première évidemment nécessité. Et puis on reparlera évidemment de cette loi qui devrait être votée en ce qui concerne le licenciement des salariés, tout corps de métier confondu, que ce soit les soignants ou vous-même, que vous soyez boulanger, que vous soyez dans les restaurants.
restaurant. Voilà, vous serez plutôt arrêté plutôt que d'être licencié. Est-ce que ça vous plaît de savoir que vous êtes suspendu plutôt que d'être licencié purement et simplement, à vous de nous le dire, 3210, 3210. Puis ces médailles qui sont là, une nouvelle médaille d'argent pour le judo français. Vous pouvez venir évidemment l'évoquer avec nous, avec Sarah Léonie Sizik, argentée il y a quelques instants. Et on espère le bronze pour l'escrimeuse Manon Brunet dans quelques instants. Et puis concernant le trafic TGV, il est de retour à la normale, quasi normale ce matin, après l'interruption, bien sûr, dimanche des liaisons SNCF entre Paris, Montparnasse et le Sud-Ouest, après l'affaissement de terrain dans la région de Massy-Palaiseau. Il est 13h02.
La table allongée sur RTL.
Isabelle Langer et ses petits souvenirs d'enfance, évidemment, auprès des mamans. Isabelle Langer, c'est vraiment une chronique qu'on adore retrouver avec plaisir à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques. Isabelle, aujourd'hui, va nous parler encore de ces sportifs de haut niveau assez phénoménaux.
Chapitre 1, tel père, tel fils.
Jackson Melvin est né le 31 janvier 1997 à Marseille. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là ?
Ah ben c'est sûr, il y a une anecdote par rapport à cette date. J'étais en Allemagne, j'ai appris à 6h du matin que ma femme est rentrée à l'hôpital à Marseille et il fallait absolument que je prenne l'avion pour pouvoir assister à l'arrivée de Melvin et du coup, encore une fois, j'ai tenu à ma réputation, j'ai raté le vol.
Pourquoi ce prénom de Melvin ?
Ma femme, elle voulait Kevin et moi, je voulais Marvin, mais ça faisait trop dur dans la prononciation, Marvin Richardson. Alors du coup, ben, on a coupé la part en deux, ben, on a dit, bon, on a appelé Melvin.
C'était un bébé comment ? Sage, capricieux.
Je me rappelle la première nuit qu'il a passée en Allemagne. On a pris peur avec ma femme à 6h du matin. Il était encore endormi. On a essayé de le toucher pour voir s'il respirait encore. Il a fait minuit à 9h du matin. Pour vous expliquer, voilà, c'est un bébé dormeur. Les chiens font pas des chats. Je pense qu'on sait de qui il tient. Melvin, n'importe où dans les déplacements, du moment qu'il appuie sa tête, il arrive à s'endormir. Et c'est vrai que moi, j'étais comme ça aussi.
Chapitre 2. Les femmes de sa vie.
Il a une petite sœur.
Ilana, elle est née en 2001. C'est le clone, mais beaucoup plus speed que Melvin quand il était gamin. Parce qu'elle, c'était le contraire. Elle, il fallait l'attacher.
Ils s'entendent bien ?
Ah ben, ils sont tellement fusionnels. Bon, on a l'impression à chaque fois que c'est un couple. Ils n'ont pas la peine de se parler. Ils arrivent justement à se regarder, à pouvoir faire des choses sans imaginer, quoi.
Il a fait des études ?
Ouais, ben en fait, les études, c'était hyper important pour sa mère, même pour moi. Mais je pense que voilà, depuis gamin, il a été drivé par sa mère. Même s'il ne voulait pas, sa mère, elle était derrière avec la baguette pour pouvoir le faire suivre. Il ne va pas laisser un petit brin de répit jusqu'à son master.
Chapitre 3, un prénom à se faire.
Il n'avait pas d'appréhension de porter ce nom de Richardson, parce que c'est quand même un sacré poids.
Je pense qu'il a eu cette appréhension. Déjà, dans la cour d'école, il a dû avoir cette difficulté. Parce que moi, je me rappelle que quand je jouais à Pampelune, il me l'a sorti une fois. Je crois qu'il devait avoir 8 ans. Je lui ai dit, ouais, mais papa, mais t'arrêtes de signer les autographes pour les autres. Mais t'es mon père, t'es Jean. En gros, arrête de t'occuper des autres, occupe-toi de moi. En grandissant, il a compris que ça allait être quelque chose de très, très dur à porter. Puis sa mère et moi, on a réussi à faire comprendre que quoi qu'il arrive, il sera toujours jugé, que ce soit bon ou mauvais. Alors dis-toi bien que tiens un nom, c'est à toi de surfer sur le nom et écrire ton prénom pour pouvoir exister par toi-même. Et en fait, il a toujours fonctionné dans ce sens-là.
Chapitre 4, la face cachée de Melvin.
C'est quoi sa plus grande qualité ?
De regarder les autres avant de regarder soi. Toujours d'être attentif à aller aux soins des autres. À un grand cœur, quoi.
Son plus gros défaut ?
D'être trop altruiste, c'est ça le problème. Ça, des fois, ça le joue des tours. Et je pense que, en grandissant, il va comprendre qu'à un moment donné, il faut couper la part en deux, d'être gentil, mais des fois aussi, mettre des barrières pour se protéger.
Il a un surnom ?
Ouais, c'est sa sœur qui l'a appelé Gédéon, je crois.
Ça vient d'où ?
Je sais pas. Et après, il y a aussi Lemurien, c'est ça ?
Lemurien ?
C'est ça. il fait que dormir.
Épilogue.
Quel regard vous portez sur l'homme qu'il est devenu ?
Je dirais un regard de fierté. Il a pris de la maturité, de la sérénité, sans qu'il veut encore toujours s'enrichir. C'est Melvin, c'est une éponge. Il veut toujours apprendre dans tous les domaines.
Jackson, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui que vous ne lui avez jamais dit ?
Ce que je le dirais, c'est surtout à un moment donné de laisser la crainte un peu dans les vestiaires. Parce que tu vois, il veut tellement bien faire et surtout pas mal faire. Il joue souvent à l'envers. Soit il prend pas de risque, soit il va forcer les choses. Quand un joueur part dans ce principe-là, la peur de mal faire, en fait, on fait les choses à l'envers.
Vous avez envie qu'il revienne de Tokyo avec une belle médaille ?
Je me rappelle toujours, c'est comme si c'était hier. C'était en 2008, j'avais fait une interview et il était à côté de moi, il a suivi. Et le journaliste m'a posé la question si je regrettais de ne pas avoir la médaille d'or olympique. Je lui ai dit, bien sûr, je suis compétiteur, j'ai eu la chance de faire 4 Jeux olympiques. D'être médaille d'or olympique, c'est un rêve. Si j'avais pas ce rêve-là, je n'aurais pas été compétiteur comme je l'ai été. Et le petit merdeux, à côté de moi, pendant l'interview, et tout ça, il m'a touché le bras, il m'a dit « Papa, t'inquiète pas, un jour je te ramènerai la médaille olympique ». J'avais la bouche ouverte, je pouvais plus parler. Et au fond de moi-même, je lui dis « Tiens, mais j'espère, mon fils, que ce rêve se réalisera, mais pas pour moi, mais pour toi ».
C'est beau, hein? C'est magnifique. Moi, j'adore ces histoires de papa qu'on adore. Jackson Richardson, un de nos consultants il y a quelques temps sur RTL, et son fils maintenant, qui est là, qui est en pleine compétition avec, évidemment... Ah! Ben les champions olympiques! Médaille ou pas? Médaille ou pas de bronze? Ça doit être ça, puisqu'Isabelle Langer, j'entends le petit jingle, nous appelle.
Eh bien, écoutez, je vous avais dit qu'elle avait goûté assez au chocolat amer de Rio et qu'il n'y avait que le bronze qui allait à son teint. Eh bien, voilà, Manon Brunet décroche cette belle médaille de bronze au sabre. Elle a battu, elle a même dominé la Hongroise Anna Marton en finale. 15-6, magistrale Manon Brunet. Deuxième médaille en individuel pour les escrimeurs français après le beau titre hier de Romain Cannon.
Ben c'est bien, ça fait 5 médailles. Formidable. Mais pour l'instant, quand on fait
on va passer aux équipes maintenant en escrime. Ils vont aller nous faire des médailles. Je vous rappelle que les espéistes sont trois fois triple champion olympique en titre. Donc,
On compte sur vous. Nicolas Bernard, Jean-Michel Rascol. À bientôt, ma petite Isa. Et à 18h30, n'oubliez pas le rendez-vous avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour refaire les jeux comme tous les soirs sur RTL. Les auditeurs.